BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse est 100% applaudi. On est parti pour 2h30. Et ça y est, c'est la cloche à Wall Street. 2h30 d'autonomie totale au rythme des marchés. Et Wall Street, là, qui tout de suite vient nous sonner les cloches au sens propre. Et notre Dream Team pour accompagner, analyser surtout ce début de séance aux États-Unis, là, en direct. Elle est là, Karen George pour Ecofi. Bonjour Karen, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Et en fil rouge, il est là aussi, Antoine Larigauderi. Bonjour Antoine.
Bonjour Guillaume.
Premiers instants de cotation. Alors, c'est une séance intéressante, importante pour SKNX qui va faire ses premiers pas sur le marché américain. On en parlera dans un instant. Comment se comportent d'abord les trois indices US aujourd'hui, Antoine?
C'est très partagé. Un plus 0,08% pour le S&P 500, 7549 points, plus 0,29 pour le Dow Jones. On est à 52 639. Le Nasdaq en légère baisse, moins 0,1% à 26 181 points. Mais autour de la planète, la tech est appelée à sous-performer légèrement aujourd'hui. Moins 0,19% pour l'Euronext Tech Leaders. Le CAC en très légère hausse, plus 0,02%. Mais ce sont surtout les valeurs industrielles qui sont plutôt entourées aujourd'hui.
Karen, effectivement, les valeurs industrielles dont on va parler dans un instant, on parlera de vos choix d'allocation pour ce deuxième semestre. D'abord, donc, SKNX fait ses premiers pas sur le marché américain. Alors, sous forme d'ADR, dès qu'on a la cotation, bien sûr, on vous en fera part. Ça pourrait ne pas avoir lieu tout de suite, dans les toutes premières minutes. C'est pas rien, Karen. Hein. C'est quand même la plus grosse introduction d'un groupe étranger à Wall Street.
Exactement, c'est l'ADR la plus importante qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de Wall Street. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une demande qui a été plus de 7 fois sursouscrite, donc pour plus de 26 milliards de dollars. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs de la mémoire qui sont importants. Hein. Donc, bien sûr qu'on connaît Micron, SKNX, donc c'est une capi d'ailleurs assez proche de Micron, avec finalement un triplement du cours de bourse donc à Séoul, en Corée du Sud. Et on l'oublie, donc cette capi donc, qui est à peu près de 900 milliards d'euros. Et pourtant, un peu moins de 30 milliards de dollars de profit en 2025. Donc, c'est vrai qu'il y a un niveau de valorisation qui est très élevé sur les acteurs de la mémoire, mais avec une croissance, bien sûr, qui est là au rendez-vous. Mais c'est en effet exceptionnel, avec une très forte demande. Ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi la tech est en petite baisse. C'est la même chose avec SpaceX, c'est-à-dire parfois on fait un peu de place pour laisser justement la place à des ADR de SKNX.
Oui, oui, une levée de 26 milliards et demi de dollars, c'est plus qu'Alibaba en 2014. Hein. En 2014, Alibaba avait levé non pas 26 milliards et demi, mais 25 milliards. Donc voilà, cette IPO a été plus de 7 fois sursouscrite. C'est intéressant comme signal, Karen, parce qu'on se demandait si ce segment, les semi-conducteurs, les cartes mémoire, à son tour, étaient amenés à consolider, comme l'ont fait les 7 magnifiques depuis plusieurs trimestres. Non, l'intérêt est toujours là, manifestement. Et la question qu'on peut se poser avec SKNX, ce nouvel acteur côté Wall Street, c'est en termes de capi, est-ce qu'il va y avoir match avec les autres acteurs du secteur déjà cotés aux États-Unis, Micron par exemple, est-ce qu'SKNX pourrait doubler rapidement Micron?
Alors ça reste une possibilité. Alors déjà les deux sont très proches, et puis l'autre point qui est favorable à SKNX, c'est qu'ils ont aussi, un peu comme Micron l'a annoncé il y a quelques jours, donc des gros investissements aux États-Unis. C'est le cas aussi de SKNX. Hein. Il faut savoir qu'à peu près 68% du chiffre d'affaires du groupe coréen est exposé aux États-Unis, qui vont construire une nouvelle usine dans l'Indiana. Donc le volontarisme, on va dire, d'investissement sur le sol américain est un point très positif pour eux, parce que comme on le sait, l'administration Trump pousse pour avoir des investissements finalement sur le sol américain, qui sont très importants. On l'a vu d'ailleurs avec l'annonce d'Apple, avec l'accord avec Broadcom il y a quelques jours aux États-Unis. Donc SKNX suit ce scénario, même s'ils ont aussi un gros site qui est prévu avec Samsung en Corée. Donc vu que la capi est assez proche, hein, donc Micron est à peu près à 100 milliards d'euros de plus que SKNX, hein, si on convertit. C'est assez proche, c'est possible, surtout si la dynamique de croissance est, on va dire, surprend positivement encore plus que celle de Micron.
Oui, SKNX, donc l'ADR coté à partir d'aujourd'hui à Wall Street, est-ce qu'on a le prix là? Est-ce qu'on le voit coté cet ADR pour l'instant, toi?
Non, pour l'instant ça cote pas. Il doit y pas avoir beaucoup de choses à régler en termes de compensation, d'ordre et tout pour avoir un prix fixe. On a juste le prix d'intro, 149 dollars, mais ça ne bouge pas pour le moment.
Ce qui est frappant, c'est qu'on s'est interrogé pendant longtemps sur les risques pour les indices américains d'une hyper-concentration, d'une hyper-dépendance envers les 7 magnifiques. Et puis là, on parle quasiment plus des 7 magnifiques, alors que leur poids reste important. Mais on a découvert ce chiffre sur les 7 magnifiques. On n'en parle plus, et en termes de sous-valorisation par rapport au S&P, on est sur des plus hauts de 10 ans. C'est-à-dire que les Mag 7 affichent leur plus forte décote en 10 ans face au reste du S&P, ce qui n'empêche pas le S&P depuis un mois de gagner 3%. C'est intéressant ça, parce qu'on craignait que l'hyper-concentration, l'hyper-dépendance aux 7 magnifiques, ben, le rendait le S&P vulnérable. Là, les 7 magnifiques font plus grand-chose, mais le S&P progresse quand même. C'est une leçon positive qu'on peut tirer de tout ça, Karen?
Ah oui, non. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois, je pense, ensemble. C'est vrai que c'est assez surprenant que ce groupe qui constitue à peu près 39% de l'indice S&P, mais qui représente 34% des bénéfices, ait finalement ce retard, même si on oublie qu'il y a des fortes divergences au sein du Mag 7, hein, donc les performances peuvent être très, très différentes à l'intérieur de ce groupe éponyme. Et l'autre point, c'est que, comme vous le disiez, donc on se paye 22 fois 2027 en termes de PE, contre à peu près 20 fois pour le S&P. Donc, en effet, toute la prime a quasiment disparu. Sachant qu'on attend pour le trimestre à venir plus de 30% de croissance des bénéfices, donc des bénéfices par action, contre à peu près 22% pour le S&P. Donc c'est vrai que là, il y a une forme d'anomalie. Et idem Nvidia, hein, si on prend ce cas emblématique, hein, qui a perdu à peu près $1 trillion de sa valeur, le titre se paye moins cher qu'à peu près la moitié des titres du S&P. Ce qui est là aussi quelque chose qui est assez atypique. Alors pourquoi ? Donc ça, c'est plutôt bon signe en termes d'opportunité pour la suite par rapport au Mag 7. Ce qui est plutôt inquiétant, comme vous le disiez, c'est l'hyperconcentration. Un chiffre qui symbolise bien cette hyperconcentration. Lorsqu'on, justement, je vous parlais des attentes de 22% de croissance des BPA, la moitié vient des semis. Enfin, essentiellement des semis, de la tech, mais surtout les semis, la moitié. Donc, 11% en points vient des semi-conducteurs. Donc, en effet, cette concentration, hein, ce groupe qui représente un peu plus de 22% de la capi du S&P est en effet de plus en plus concentré, en plus, sur des sous-segments, soit très liés à la mémoire, soit liés aux équipementiers semi-conducteurs. Donc, ça, c'est pas très sain. Donc, voilà. Donc, il y a du bon et du moins bon, on va dire, dans ce cas de figure.
Wall Street ouvre donc très indécis. Le S&P 500 gagne 0,1, le Nasdaq est stable. Les publications vont démarrer pour de bon la semaine prochaine. On doit quand même regarder aujourd'hui Delta Airlines, parce que Delta publie avec un peu d'avance sur les autres groupes. Le titre est intéressant quand même, parce que Delta, on est dans l'univers aérien, un groupe bien sûr très dépendant des cours du kérosène et du pétrole. Le titre perd 2,3% après la publie. Est-ce que ça vous semble logique, Karen ?
Alors, a priori, c'est pas logique. Il y a peut-être un sell on the news, c'est-à-dire que peut-être ce qu'on appelle le buy side, donc les acteurs comme les gérants, donc pas les analystes, hein, donc les sell side en anglais, attendaient finalement des résultats qui étaient plutôt corrects, hein, une croissance de l'ordre de 13%, avec une guidance, donc des prévisions qui sont maintenues, qui sont pourtant au-dessus du consensus, donc des analystes. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Alors peut-être ouvrir un peu, peut-être flat, peut-être pas en baisse. Peut-être que le marché est peut-être inquiet de la destruction de demande, parce que le CEO, lors de sa conference call, donc le call avec les analystes, a indiqué que les prix resteraient élevés. Et même si la facture de fuel reste moins importante que ce qui était anticipé, on pourrait peut-être craindre finalement trop d'optimisme sur la guidance de Delta. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de faiblesse sur le cours. Mais des résultats qui étaient plutôt en ligne, voire un peu mieux que ce qui était attendu.
Delta, donc, en baisse de 2%. La semaine prochaine, les banques américaines vont commencer à publier, on en parlera dans un instant. Mais plus globalement, est-ce que cette saison, alors on regardera la tech aussi, mais sera surtout marquée par la frilosité des consommateurs. Hier, Pepsi s'est exprimé là-dessus. Pepsi a publié ses résultats qui ont été sanctionnés parce que Pepsi a expliqué que sur le segment Amérique du Nord, l'inflation pesait sur le panier et le volume d'achat des consommateurs. Est-ce que c'est ce qui nous attend ? C'est ce qui marquera, d'après vous, cette saison qui arrive ?
Alors, c'est un bon point. C'est pour ça que la dernière fois, je crois qu'on avait parlé lors des résultats, que les groupes de consommation très exposés aux ménages étaient plus frileux sur la hausse des prix, parce que justement, ils indiquaient que ça détruisait la demande, hein, surtout des groupes de retail américains, les Dollar Tree, les Walmart, etc. Donc, c'était très compliqué pour eux de faire passer des hausses de prix. Et donc, il y avait vraiment un véritable risque sur les marges. Et donc, en effet, Pepsi, qui a une très faible croissance, hein, un peu plus de 2%, indiquait que la croissance était plutôt molle aux États-Unis. Et même certains groupes qui continuent, on va dire, des promotions importantes, hein, on pense à Nike, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est poussif sur le consommateur américain, donc surtout pour les groupes qui sont très B2C. Donc ça laisse peut-être craindre un peu de faiblesse sur certains groupes qui sont très exposés justement aux États-Unis, sachant que pourtant un groupe comme Levi's qui a publié il y a quelques jours, eux la crainte c'est plus l'Europe. Donc c'est vrai que c'est pas forcément homogène selon les groupes, mais il y a plutôt ces craintes sur la consommation, au niveau des banques. Là on attend plutôt une bonne saison des publications des banques, parce que les commissions sont attendues en hausse à double chiffre, sachant qu'en plus le ce qu'on appelle le primaire, donc tout ce qui est IPO etc. Donc les nouvelles émissions, ça a été très costaud, hein, que ce soit sur la dette ou bien sûr sur les IPO qu'on a eu comme SpaceX notamment. Ça, c'est très favorable aux banques d'investissement, aux grandes banques d'affaires américaines, ainsi que justement, on va dire, une belle recovery des crédits. Et ça, c'est plutôt positif aussi pour elle, avec un environnement de taux d'intérêt à long terme qui est resté plutôt élevé, puisqu'on est à peu près à 4,5 sur le 10 ans américain.
Oui, c'est donc les banques américaines vont publier. JP Morgan, qui doit ouvrir le bal, ce sera mardi. Ce sera très, très intéressant. Ouais, exactement, le 14 juillet, voilà, pour entamer, ouvrir le feu d'artifice. Au-delà de tous ces enjeux très court terme, pour ce deuxième semestre qui démarre, Karen, qu'est-ce que vous allez regarder? Quels sont les principaux moments qu'il faudra avoir en tête, voilà, au moment où ça arrivera, ne pas être surpris et qu'il faut d'ores et déjà savoir préparer?
Alors, il y a bien sûr la réserve fédérale. On l'a vu il y a quelques jours avec le ministre de la Fed qu'il y a encore des divergences au sein des membres et aussi une communication qui donc maintenant a vocation à changer progressivement, à être un peu plus faible si Kevin Warsh reste dans le même canal. Et donc là, il faudra bien surveiller bien sûr ces décisions en termes de politique monétaire et donc les taux longs, parce que c'est vrai que si on repart vers les 5%, ça pourrait être un peu plus douloureux pour les marchés actions. Donc ça, c'est bien sûr le premier point. Le deuxième point, c'est la géopolitique. Le troisième point, c'est bien sûr les résultats, là, que ce soit le T2 ou le T3. Donc, il faut savoir qu'en général, c'est une période où on révise plutôt à la baisse les résultats. Là, c'est exceptionnel, ça a été l'inverse. On a révisé à la hausse de plus de 4% les résultats attendus pour le T2 notamment. Donc, c'est vrai qu'il y a une année, on va dire en termes de bénéfices, assez exceptionnelle attendue aux États-Unis. Donc, c'est vrai que ça laisse peu de marge de manœuvre aux mauvaises surprises, aux mauvaises nouvelles. Donc, ce sera particulièrement scruté, ainsi que bien sûr l'IA. On revient toujours à l'IA, parce qu'il faut rappeler quand même que les capex qui sont dédiés à l'IA représentent 40% des capex du S&P, donc sur un petit nombre d'entreprises. Donc c'est vrai que la moindre nouvelle, on l'a vu hier ou avant-hier sur Meta, sur peut-être ce projet d'avoir sa propre puce qui s'appelle Iris, qui pourrait aussi donc à revigorer sur une seule séance les semi-conducteurs. On voit qu'il y a une forme de fragilité par rapport au news flow sur l'IA qui pourrait être déterminante, notamment aussi avec les IPO encore à venir d'Anthropic et d'OpenAI.
Merci Karen. Karen George avec nous pour Ecofi.